Bonjour, ici Marie-Lune et bienvenue au 4e épisode de Cœur et croupe, le podcast qui répond aux questions que vous n'avez jamais osé poser concernant l'amour, le sexe et la vie en général. Pour m'aider à vous répondre, je serai à chaque émission accompagnée d'un ou d'une invitée. Alors, mon invité d'aujourd'hui, décidément, je reçois des gens qui ont un long curriculum, écrit des blagues pour Deux Hommes en Art à Télé-Québec, écrit et fait des vidéos pour le magazine Jeunesse Curium. Il est chroniqueur au 15-18 Retour à la maison d'ici première les vendredis.
À Montréal.
Il est chroniqueur, blogueur pour le magazine L'Actualité.
Depuis trop longtemps.
On note. Il fait les médias sociaux, de la recherche et écrit pour Info, Sexe et Mensonges, le show de Marc Labrèche que j'adore, à Art TV. Tu es également un des deux créateurs du très drôle blog « Vas-tu finir ton assiette? »
Oui, avec Caroline Descostes.
Que j'adore aussi.
Formidable, Caroline Descostes.
Vous êtes des opilons. Et tu détiens probablement le record du plus grand nombre de Tumblr.
Ça, c'était il y a longtemps. J'en ai pas ouvert depuis, je pense, 2 ans.
Mais ils existent encore.
Les 15 que j'ai perdu existent encore.
On va les déterrer. Tu es aussi musicien.
Je fus.
Papa. Oh, c'est pas vrai. Mais surtout, le plus important, c'est toi qui as composé l'excellente musique de Cœur et croupe.
C'est super le fun.
Ah, excellent.
Cette semaine là-dessus. Beaucoup de plaisir.
Excellent. Moi et Ben, on adore. Alors, bonjour. Mathieu sur le bois.
Bonjour.
Calme-toi, Mathieu. Arrête de tout faire en même temps. Chaque fois que je regarde le curriculum de mes invités, je suis comme « Ah, puis moi, je suis juste ici, je suis assis, je fais une job que personne ne comprend. »
Oui, mais t'as une job. C'est que nous autres, ça nous en prend comme 28 pour comme payer le loyer puis faire une semaine.
Ah, oh, c'est triste.
T'sais, non, t'as mis tout ça, mais c'est une journée chaque à peu près, ou une journée et demie, ou comme un paquet de temps éparpillé partout, puis c'est... Il y a beaucoup de jobs qui sont complémentaires l'une dans l'autre. Suivre les nouvelles pour Deux Hommes en Art, c'est suivre aussi les nouvelles pour Info, Sexe et Mensonges. Puis ce que je mets pas dans les deux, je mets ça dans ma chronique du 15-18. Puis comme tout est un... Tous mes jobs sont... Je choisis mes jobs pour que je sois capable de les faire.
S'il
fallait que je reparte de zéro à chaque job, ça rentrerait pas, là. C'est impossible.
Ça doit prendre beaucoup de jus de cerveau, tout ça.
Ben ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de drôle dans ce que tu fais, là.
Ben, officiellement, ma job, c'est d'écrire des jokes.
Okay. Job de rêve.
Ouais, ben c'est sauf que tu sais, il y a des semaines où est-ce que ton père pogne le cancer, puis il y a des semaines où est-ce que ta mère est à l'hôpital puis se fait opérer au cerveau, puis ben il faut encore que tu fournisses des jokes cette semaine-là.
Ah ouais, c'est pas drôle.
Des fois c'est spécial, là. Des fois c'est ton cerveau tombe en pas en mode automatique, mais il y a des semaines où tu reposes plus sur des mécanismes d'humour que sur de l'inspiration divine, mettons. C'est comme, bon, ben voici
les
nouvelles
procédés.
A, voici item qui est dans les nouvelles B. Je vais mâcher ça ensemble sans faire une blague. Mon instinct me dit que c'est drôle, mais en ce moment, j'ai aucune envie de rire, tu sais. Fait qu'il y a des semaines où c'est ça aussi, écrire des jokes. Puis ouais, ça demande beaucoup de jus de cerveau parce que c'est toujours, faut toujours me demander, fait que c'est quoi les nouvelles ces temps-ci? Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Puis en plus, c'est pas toujours moi qui interprète les jokes, fait que c'est qu'est-ce que les autres pour qui j'écris peuvent dire puis que ça a de l'allure qu'ils disent. Quand je parle de 15-18, ça va, c'est tout moi qui parle, mais quand j'écris des jokes pour Deux Hommes en Art, ben qu'est-ce que je peux faire dire à Patrick Lagacé puis Pierre-Yves, puis c'est tout plein de drôles de paramètres des fois. Mais c'est le fun. J'aime ça que ça soit rendu ça ma job. Je pensais pas arriver à ça. C'était comme l'item 8 sur ma liste d'affaires que je pensais pouvoir faire.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je m'éloigne, mais ça m'intéresse.
Ben, écoute, j'ai voulu être musicien, c'est pour ça que j'ai étudié en musique.
Mais t'as un groupe,
J'avais un groupe, je pense qu'on n'existe plus. Là. Je pense qu'on
peut, c'est pas clair.
Je pense qu'on peut assumer qu'on va peut-être ressusciter un jour, mais l'ours avec nous, que ça s'appelait. Et fait que ça, je voulais faire de la musique, fait que j'ai étudié en musique. Après ça, j'ai eu un enfant, fait que j'ai arrêté d'être en musique, fait que j'allais travailler dans des usines. Puis là, je me suis rendu compte que ce qui me gardait en vie, c'était d'écouter la radio. Mais comme vraiment, j'écoutais C'est quoi à... Je portais des morceaux de métal en chrome pour mettre sur des motos. Je faisais ça à journée longue, je mettais ça dans des sacs, je mettais ça dans des boîtes. Et on envoyait ça aux gens qui achetaient des pièces de moto pour mettre sur leur moto.
Donc pour garder ton cerveau.
Ben, la radio jouait, mais c'était C'est quoi qui jouait. Mais juste comme analyser comment ils organisaient leur heure. Puis, je sais pas, la mécanique de la radio me gardais comme... C'est tout ce que j'avais. De toute façon, j'allais pas analyser les morceaux de chrome devant moi. Fait que j'analysais ce qui passait à la radio. À un moment donné, je me suis ramassé dans un autre entrepôt de disques, cette fois-là. Et j'étais tout seul dans mon coin. Fait que je me suis mis à écouter Radio-Canada. Puis c'était Marie-France Bazot à l'époque où elle faisait Indicatif présent, ce qui ne nous rajeunit pas. Et, et là, j'ai dit, bon, ben... Écoute, je faisais une job où est-ce que les trois personnes qui l'avaient fait avant moi étaient tellement punkues que même en travaillant lentement, tout le monde trouvait que je travaillais super vite. Fait que j'en ai profité, puis des fois, je scannais la commande que j'étais en train de faire, puis là, l'entrevue n'était pas finie. Fait que je prenais ma boîte, je remettais de l'autre bord, j'annulais la commande et je la scannais une deuxième fois.
Wow!
Pour aller jusqu'à la fin de l'entrevue. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, ben, OK, peut-être que la radio serait une bonne avenue, peut-être que tu as envie de faire quelque chose comme ça. Ça fait 3 ans que tu travailles dans des usines, ça va, ton enfant est rendu à 3-4 ans, tu peux recommencer à aller faire quelque chose. Fait que je suis allé étudier en journalisme. Fait que là, journaliste, je suis devenu journaliste web, recherchiste à Radio-Canada, j'ai voulu faire de la radio. Finalement, j'ai été journaliste web à l'actualité pendant 6 ans, où j'ai été aussi chroniqueur musique. Puis, à un moment donné, j'ai quitté l'actualité parce que j'avais fait le tour et parce qu'une toune d'LCD Sound System m'a dit de le faire aussi. Et là, je m'en allais faire de la radio à Radio-Canada, sauf qu'ils ont... Parce que la radio allait bien, ça recommençait à être intéressant. Puis là, ils ont comme tout coupé, comme 2 mois après que je sois parti de la journée à l'actualité. Là, je fais comme...
T'as sauté dans le vide, mais il n'y avait plus de filet.
Ben, c'est ça. Je fais comme... Ouais, ce qui, le mieux qui peut m'arriver, c'est que je vais m'amasser réalisateur qui n'a pas de pouvoir sur une émission que j'aime pas, ou je vais être recherchiste pendant longtemps sur une émission que je respecte pas. Fait que bon, c'est quoi mon autre item dans ma liste? Écrire des jokes. OK, mais je pense qu'il faut aller faire l'école l'humour pour faire ça. Ça prend les contacts et tout.
Tu l'as fait?
Non. J'ai fait un cours du soir pour... J'avais eu plein d'émissions de radio à moi avant. Hey, c'est super de cousu, je raconte. Désolé. On dirait que j'ai jamais fait de radio de ma vie. Mais j'ai fait beaucoup de radio.
Ils croiront pas. J'aime ça la radio, tout le monde. Mm-hmm.
J'ai fait beaucoup de radio, puis j'ai écrit comme beaucoup de trucs d'humour. Il y a une session à l'université où est-ce qu'en plus de mes cours et ma job, j'avais 3 émissions de radio. Et il y en a 2 que j'écrivais pratiquement au complet. Fait que j'écrivais comme l'équivalent de comme 6 sketchs par semaine, puis 3 chroniques. Puis quand j'ai fini ça, je suis tombé dans un vide total de création. Je n'étais plus capable de rien écrire. Puis ça a duré comme 2 ans. Fait que j'étais faire un cours du soir à l'école de l'humour.
Ah, est-ce que c'est le cours en écriture?
J'ai fait le cours d'écriture.
J'ai fait
1,
le même.
Et j'ai découvert 2 choses. C'est pas vrai que tout le monde est drôle. C'est là que je me suis rendu
merci
compte
de
que...
Merci de le dire.
Tu sais, t'es assis autour de la table, puis on est comme 12 personnes qui font le cours, 12-15. Puis là, t'écoutes les gens faire leurs jokes, tu te rends compte, finalement, c'est peut-être un talent que j'ai quand je suis drôle. C'est pas vrai que tout le monde est capable de le faire, puis ça m'a comme m'a fait me rendre compte que ça, j'avais ce talent.
Parce qu'il y a des gens qui sont drôles dans leur cercle, oui, tu sais, à leur bureau, c'est le clown du bureau, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent monter sur un stage, faire des jokes, puis tout le monde va...
Ou juste comme fournir, même quand il y a rien. Et ensuite, ben, le fait d'avoir un truc à fournir chaque semaine avec une commande, c'est bon, mais cette semaine, faites-moi 15 procédés. Fait que des comparaisons, je me souviens plus des noms des autres procédés, mais comme, là, c'était comme purement de la technique. Fait que t'es capable de fournir, même quand ça te tente pas. Ben, ça aussi, je suis capable. Puis, écrire de l'humour et écrire du journalisme, c'est un peu la même chose. Quand tu écris un article, faut que un des trucs qu'on m'a appris à l'actualité, c'est regarde ta phrase puis demande-toi si chaque mot a raison d'être là. Puis, c'est-tu le meilleur mot? Fait au début, c'est super fastidieux parce que tu écris ton texte comme 6 paragraphes. Puis là, je suis allé à... Ah, ce mot-là est trop. Puis là, t'enlèves, puis tu te ramasses à quelque chose de super compact. Parce qu'il faut qu'il n'y ait rien qui soit dans le chemin de l'information. Puis en humour, c'est la même chose. Il faut qu'il n'y ait rien dans le chemin de ta joke. Puis je sais déjà écrire. Parce que j'avais fait ça pendant... J'ai fait mon université là-dedans. Fait que je suis arrivé là, je me suis rendu compte que je pourrais faire de l'humour déjà. Je pourrais aussi essayer de faire l'école d'humour. Fait que je me suis inscrit à l'école d'humour. Puis finalement, j'avais le choix entre payer 15 000 $ et ne pas avoir le temps de travailler en humour parce que j'apprenais comment écrire. Ou juste aller... faire les gigs que j'avais déjà. J'avais le choix entre payer pour étudier pour savoir comment faire de l'humour ou juste être payé pour faire de l'humour. J'avais déjà des gigs à l'actualité. Hey, c'est super découvert. Bref, tout ça pour dire que je me suis ramassé blogueur. Blogueur de choses drôles à l'actualité et pas mal tout est parti de là.
Mais en fait, à part ramasser des trucs de métal, tout t'a servi à ça. Tout t'a mené à ça. Mais en fait, de faire un job brainless, on s'excuse, ça t'a aidé à vouloir avoir plus de matériel.
À un moment donné, j'avais fait le tour de ça, là, de payer mon loyer puis m'arranger pour que mon enfant ait tout ce qu'il a besoin. Comme, j'avais fait le tour de ça, j'avais besoin d'autres choses puis j'avais d'autres moyens d'y arriver. Mais je regrette beaucoup de journées individuellement parce que c'était plate, mais je regrette pas l'ensemble de la chose. Je regrette pas d'avoir passé ce temps-là dans les usines parce que tu rencontres plein de monde qu'autrement. Quand tu vas à l'université, tu rencontres des gens qui vont à l'université puis c'est un type de personne. Puis dans les usines, j'ai croisé du monde qui achète des billets de loto chaque semaine et espère que c'est cette semaine-là qu'ils gagnent. J'ai croisé du monde qui était raciste. J'ai croisé des immigrants qui étaient docteurs dans leur pays et classaient des disques dans un entrepôt ici. J'ai rencontré un paquet d'affaires que maintenant, je comprends plus que ce qui se passe quand je regarde l'Internet puis les commentaires. Je suis jamais surpris quand
c'est
je
ce monde-là.
De quoi. Ces gens-là, ils sont beaucoup. Ils méritent beaucoup d'amour. Ils méritent beaucoup de notre respect. pas toujours d'accord avec le fond de leurs pensées, mais je sais d'où ils viennent, puis je sais où ils s'en vont, puis genre, c'est pour ça que je ne regrette pas du tout en fait du temps dans des usines, parce que ça a été...
Ça t'a mis en contact avec le, en guillemets, le vrai monde.
J'écris pour eux autres souvent. Bon, je dis comme, OK...
Ta Monique de l'entrepôt.
Faut qu'ils comprennent. des fois, je sais que je leur parlerai pas aux autres, puis comme... Des fois, j'abandonne que, OK, ça, ce sera pas pour eux autres, je fais un texte pour du monde qui pourront peut-être leur expliquer, tu sais. Mais au final, le but, c'est toujours que eux puissent retirer quelque chose de ce que je fais.
Ouais. T'as dit que t'avais été papa assez jeune aussi, parce que t'as dit cégep.
Ouais, j'ai tombé enceinte à 19 ans et j'ai accouché. On fait ça en gang, hein? On fait ça en couple.
Ah oui, c'est un travail d'équipe.
À 20 ans, ouais, j'ai eu mon enfant à 20. Fait que je suis en train de finir mon deck en musique.
C'est ça que je disais tantôt, parce que quand je t'ai rencontré, tu faisais des jokes de teen dad. Fait que là, moi, j'imaginais que t'avais 15, 16, 18 ans. Puis je disais, ben là, 20 ans, là, c'est pas teen, c'est pas si jeune. Mais moi, j'ai accouché à 25, puis on me considérait jeune. Nos parents, moi, ma mère, elle avait 20, 21, mais dans le temps, c'était normal d'avoir un enfant à cet âge-là, mais...
Ça veut pas dire que mon père était particulièrement heureux quand
au cégep en musique, un enfant.
Tu sais, ouais, puis tu sais, ça a l'air plus... je sais pas, mais mon gars va avoir 17 ans. Je le répète régulièrement pour m'y faire, là.
Ouais.
J'ai juste 36, mon gars va avoir 17 dans quelques
semaines. Ah, t'as mon âge!
Et il a un permis de conduire, moi, j'en ai pas. Bientôt, il va pouvoir conduire seul, il va pouvoir me faire des lifts.
J'ai tout le temps peur que ça m'arrive parce que je sais toujours pas conduire non plus. Mon fils a 10 ans, je suis comme, bon, il va me faire ça.
Moi, ça m'est arrivé et c'est spécial. On s'y fait, mais...
C'est correct, faut que ça serve à quelque chose, ces enfants-là.
Ouais. Cet enfant-là a changé ma vie, 48 fois à peu près. Je l'aime tellement.
Mais ça t'a-tu... J'imagine qu'il y a d'arrêter de travailler dans les usines puis de vouloir décider ce que tu veux vraiment, en gros guillemets, faire de ta vie. Est-ce que ça découle un peu du fait d'avoir un enfant jeune? Puis t'es comme, OK, je suis en charge.
J'ai pas eu le choix de me demander... j'ai pas eu le choix d'arrêter de faire de la musique. De toute façon, j'aurais vraiment pas été bon. J'aurais probablement été refusé à l'université, ce qui m'aurait mis devant une situation où j'aurais dû choisir autre chose. Puis à la place de ça, j'ai juste pas eu le choix. Pendant un petit bout de temps, fait que ça m'a permis de trouver une deuxième voie, ou même une première, je sais pas, ça m'a permis de trouver, en fait, je suis là où est-ce que je suis là parce que j'ai eu un enfant à 20 ans, puis ça m'a enlevé le choix pendant 2-3 ans, ça m'a forcé à faire d'autres choix pendant toutes les années d'après. Tu sais, quand j'avais des jobs pendant que j'étais à l'université, ça n'avait pas le choix d'être des... J'avais pas le droit d'avoir des jobs de fin de semaine, parce que j'avais un enfant la fin de semaine, parce que je me suis séparé de sa mère assez tôt, mais... Fait que les jobs que j'ai choisis étaient des jobs plus payants parce que justement, c'était des jobs d'usine que les étudiants pensent pas aller chercher d'habitude. Fait que j'étais payé comme 18$ de l'heure en travaillant dans une usine il y a 10 ans. Fait que j'avais besoin de moins travailler. Puis ça m'a mis dans plein de situations où est-ce que ça m'a placé aux bonnes places.
Mais t'as eu les bons réflexes si t'aurais pu juste abandonner et travailler dans une usine toute ta vie.
Ben non,
puis
j'aurais juste pas pu.
Parce que c'est le modèle qu'on a un peu... peut-être moins nos parents, parce que les années 70-80, moi, obviously, je m'appelle Marie-Lune, mes parents étaient hippies. Il y a aucun secret là. Mais tu sais, peut-être plus leurs parents qui étaient un peu... et j'ai des amis que leurs parents ont ce modèle-là aussi, que c'est plus... La vie, c'est ça, c'est que t'as un job, t'as une femme, t'as un enfant... Si t'es pas heureux dans ta job, c'est pas grave, c'est pas ça l'important, tu sais. Je lisais un article il y a pas longtemps, justement, qui disait... ben, c'était pas un article, c'était une lettre ouverte d'une madame qui disait qu'il y a plus d'adultes.
Ah oui!
En fait, les grandes lignes, c'est qu'elle disait il y a plus d'adultes parce qu'on ne veut plus prendre nos responsabilités, parce qu'on veut être heureux au travail, parce qu'on aime la même musique, les jeux vidéo que nos enfants, parce qu'on veut voyager, on se met vers nous. Pauvre Madame Beige.
Chère Madame, mon
ben
loyer...
Ben Fermim, que je ne répéterai pas.
Mon loyer est payé à chaque mois. Je paye moi-même mon épicerie, je paye moi-même mon linge et je travaille chaque jour. Je suis un adulte. Mais quand
moi,
ma job
ne
me plaît plus, je m'en vais. Parce que je ne suis pas capable de rester à une job. J'aime mieux être en danger que de me lever chaque matin et que ça ne me tente pas.
Moi, ce que je trouvais dommage, c'est que justement, on a la chance d'avoir un nouveau modèle. Tu sais, nos parents, moi, ils m'ont montré qu'il y avait d'autres modèles. Ils ont essayé de briser ces barrières-là, des couples différents, une vie sexuelle différente, des jobs différents, pouvoir voyager. On peut prendre ça comme modèle au lieu de prendre un modèle plus vieux. Et maintenant, tu sais, je demande à mon fils s'il me trouve irresponsable. Je paye mon loyer, je paye mes choses. Oui, j'ai des t-shirts de Spider-Man, mais puis je joue à des jeux vidéo avec lui. Il se plaint pas, là. Tu sais, c'est pas, et c'est pas une marque d'irresponsabilité. Je pense que ça nous humanise plus aussi. Je suis pas juste un parent. Je suis une femme, je suis un humain, j'ai des amis.
Le message, il est en contact avec. D'être plein de choses.
C'est ça,
d'être ce que tu veux.
Et ça y fait un bon modèle aussi. Ça y donne pas un modèle de ah, ben, c'est dole d'être adulte, puis je vais être obligée d'avoir un job que j'aime pas, puis je vais être obligée d'être casée. Tu sais, ça y donne plusieurs exemples. Tu sais, ça y donne mon exemple à moi, l'exemple de son père, l'exemple de mes amis, les jobs ou les vies qu'ils ont. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui. Sont BDistes, sont artistes ou sont. C'est toutes sortes de choses qui sont pas un modèle. Sont focales comme Ben, qui ont des modèles différents, mais pour lui, ça y ouvre des portes, tu sais. Puis c'est pas des adultes, ces gens-là. Ils sont pauvres, mais ils ont des jobs. Mais ils ont des jobs cool, c'est des modèles cool, tu sais. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a plus des adultes, c'est juste qu'on a brisé des carcans.
Je pense que c'était une madame que,
oh,
elle
était gris,
qui avait envie
beige.
De dire j'ai été malheureuse, tu vas être malheureuse, mais toi
oui,
aussi, ma petite fille.
On va donner de l'amour à ces petites madames-là. J'avais goûté des choses pas fines. Toi, tu as eu ton enfant jeune et tu m'as permis de parler que tu as une situation, ton garçon est trans.
Mais moi, je n'ai pas une situation.
Non, c'est
lui,
ça.
Lui en a vécu beaucoup pendant longtemps. Et maintenant, il est officiellement... il est sorti de... C'est-tu un garde-robe quand on est trans? Je sais pas.
Oh, je sais pas.
Il est sorti de sa robe. okay. Il est sorti de sa robe le lendemain de ses 16 ans par texto.
Wow!
Il a eu ses 16 ans, puis le lendemain, des textos rentraient, puis il annonçait ça. Mais ça faisait longtemps qu'on savait, là. Ça faisait 3, 4, 5 ans que...
Ah, hein, quand même, assez jeune, hein?
Parce que l'adolescence, en général, a été pas facile tout le temps. Pas facile, en fait, jamais.
Pour beaucoup, ce n'est pas rare. Facile, mais il y a des
mais
niveaux.
Encore, ouais, c'est encore plus, imagine si tu ne sais pas qu'est-ce que tu es. Et, ouais, puis j'ai été 2 ans où est-ce qu'il ne voulait pas me voir, puis j'ai appris par après que c'est en tout cas. Mais je savais parce que je le surveillais sur Internet et il en parlait sur Tumblr. Puis il parle anglais parce qu'il habite dans le West Island, puis il y a beaucoup d'amis anglophones. Fait qu'il a eu la chance de se trouver un réseau Internet de gens qui vivaient les mêmes choses que lui. Fait qu'il a pu trouver comme rapidement que, OK, ça existe, ça peut se vivre. Il y a d'autres mondes qui vivent les affaires comme moi, je peux leur parler. Fait qu'il n'était pas tout seul sur Internet. L'Internet a sauvé la vie de mon gars.
Wow.
Puis juste dire, ça existe aussi, le bon Internet qui oui. sauve des vies. Ça lui a donné un endroit où il pouvait être lui-même. Il avait posté il y a 3 ans un selfie de lui, puis en dessous, c'était écrit « Je suis beau ».
Puis... Ah ouais, j'ai des frissons en tous! Mathieu, il y a plein d'émotions.
Il était comme 2 heures du matin, puis je passais à travers son Tumblr, puis c'était long de passer à travers son Tumblr, parce qu'il postait comme 500 affaires par jour. Et je le surveillais en cachette, parce qu'il voulait pas du tout qu'on voit ces affaires-là, mais c'était ma job de père de le faire.
Oui. Fait que
je suis à travers ça, puis là, je croise la photo, puis... Il était chez nous ce soir-là, puis j'avais juste envie de me lever de mon lit, d'aller réveiller, puis dire « T'es super beau! »
Oh. Mais ça va, Mathieu,
oui.
Mathieu, des petites larmes. Ah, mais c'est des larmes d'amour, c'est pas de... Il n'y a pas de peine
tellement,
là-dedans.
C'était tellement difficile ces années-là, là. Pour lui, puis pour nous autres aussi. Chaque fois que le téléphone sonnait, puis que c'était sa mère, je me disais « OK, si tu sois là, que... »
Oh my God, qu'on l'a perdu.
C'est ça.
Oh, mais là, comment il va?
Là,
oui!
Super bien!
Je savais qu'il y avait un happy ending.
c'est pour ça aussi que. Puis j'ai demandé si vous pouvez en parler, puis j'ai dit que c'est parce que c'est important de parler des histoires qui vont vers le mieux, puis ouais. vont vers le bien. Et là, il va. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va super bien. Peut-être qu'il nous cache plein d'affaires, puis que ça va pas bien pantoute, mais j'ai le feeling qu'il va super bien, puis que ça va juste aller mieux, parce que j'ai tellement vu une transformation. On est passé de. On pensait d'un petit gars qui était incapable de se commander un verre d'eau au restaurant. S'il avait besoin d'un verre d'eau, il fallait que je le commande pour lui parce que c'était des crises d'anxiété pratiquement. Je commandais un verre d'eau. Puis une semaine ou deux après avoir fait son coming out à 16 ans, ben, il est allé voir le directeur de son école. Il va dans une école privée pour dire ben, « Maintenant, je suis un gars, fait que je vais m'habiller en gars. Puis mon nom, c'est Nathan.
Hey, » ça prend beaucoup de courage.
Puis à cette heure, quand je suis trop gêné pour parler au vendeur de souliers ou à un magasin de souliers, je me dis « C'est quoi ton aussi de problème? » <j'en ai voir. rire> Ton gars, il s'est levé un matin, il est allé voir son directeur d'école, puis il a dit « Mais maintenant, je suis un gars, dealer avec ça. »
Ah, fait que t'as beaucoup appris de ton fils, là.
Je l'admire énormément. Puis je l'aime beaucoup. Puis là, il va super bien, je pense, et j'espère.
puis ça se peut qu'il y ait du roller coaster.
Ouvert,
ça se peut qu'il y ait des hauts puis des bas, mais...
J'ai le feeling qu'on a vu le pire, puis que... Ah, il est juste tellement plus ouvert. On est passé comme de rien. Ça faisait longtemps, il y avait 5 ans, puis on lui demandait s'il avait aimé le film qu'on venait de regarder, puis il voulait pas en parler. Toute l'affirmation de lui-même, c'était impossible d'en avoir. Puis là, Écoute, ça se voit dans des niaiseries, là. Avant, il mangeait... Il y avait une palette de goût très, très restreinte, disons ça comme ça. fait qu'une pizza, ben, c'était... S'il pouvait ne pas avoir de sauce, puis juste du fromage, puis du bacon, comme c'était parfait. Puis j'étais allé manger une pizza avec lui avant d'aller voir Arcade Fire. Et... Il a pris des oignons rouges sur sa pizza. C'était le seul légume. C'était comme sauce tomate, fromage et oignons rouges. Mon gars n'aurait jamais pris une pizza aux oignons rouges il y a six mois. Ben, pas six mois, parce que ça fait un an, mais comme il y a un an, tu sais. Ça se voit dans tout. Ça fait du bien. J'imagine que ça fait du bien sortir puis exister en tant que soi-même. Puis si vous attendez de le faire pour je sais pas quelle raison, hey, mon Dieu, faites-le. Soyez vous-même.
Parce que c'est sûr
ça a l'air d'être la plus belle affaire au monde.
De juste passer de pas s'aimer, de pas se connaître, puis il est quand même chanceux d'avoir des parents qui sont aussi ouverts, puis de plus en plus aussi qui ont des modèles. Ils ont des gens en politique, tu sais. Comme tu disais, il y a une partie de l'Internet, Tumblr, tu sais, beaucoup de gens qui font des jokes sur les Tumblr Kids, mais qui peuvent être eux-mêmes et qui retrouvent des exemples, justement, des réussites et des gens qui sont heureux. Puis, tu sais,
Il y a un trans qui est heureux en fin fond du Kansas.
Wow!
Okay, tout cool. Le monde! Okay. T'sais, tu trouves ça sur Tumblr. T'sais, si tu habites à Saint-Romuald, ben, ça se peut que ton exemple de trans, c'est mon oncle qui s'est habillé en femme pour rire à l'Halloween. Puis,
qui n'est pas un bon modèle.
Ce
n'est pas un modèle à suivre.
Mais, ah, mon Dieu, soyez vous-même, les gens. Ça a l'air tellement de la meilleure affaire au monde, là.
Ça, c'est un message pour n'importe qui, en fait.
Oui, vous êtes pas juste les trans, c'est comme juste non. En général. Là.
Puis, est-ce que tu... J'ai... tu peux respirer. J'ai quelqu'un dans ma famille éloignée qui est trans aussi. Et ce que sa mère disait, et je pense qu'ils n'ont peut-être pas la même vision, peut-être qu'ils ne l'ont pas vécu de la même manière, en fait, c'est qu'à l'adolescence, le garçon est parti, il est allé en voyage quand il est revenu. C'était une femme. Donc, c'est peut-être la manière de le faire aussi. Ce que la mère disait, c'est qu'elle a dit qu'il faut que je fasse le deuil. Mon fils n'existe plus. Cette personne n'existe plus. Il faut que je fasse le deuil de la personne qui était et d'accueillir une nouvelle personne. T'sais. Mais j'imagine qu'on ne le vit pas tout le temps de la même manière.
Dans mon cas, ça a été faire le deuil d'un enfant malheureux puis en trouver un heureux.
Ce qui est parfait. Voilà.
C'est pas un deal difficile à faire chez nous. Là.
Mais j'imagine que ça dépend de la famille, ça dépend de l'être humain aussi. Et on a un ami justement qui a fait son coming out. Je sais pas non plus comment le...
On va appeler ça coming out.
OK, comment le dire. Et j'avais plusieurs émotions mixtes parce que j'avais aussi... Je me disais, oh, j'étais triste pour cette personne-là d'avoir vécu comme ça toute sa vie, de pas avoir su. Mais j'étais aussi super heureuse que la personne ait découvert pourquoi elle sent comme ça, qui elle est, qu'elle ose le dire, qu'elle ose l'être, puis qu'elle fait comme... J'ai fait ce processus-là, puis aujourd'hui, je suis prête à être la personne que je veux être, que je suis depuis toujours, mais de l'afficher puis de le vivre, tu sais. Donc, j'imagine que pour toi aussi, c'était un genre de roller coaster d'émotions, mais dans le fond, c'est le bonheur qui prévalue, là. Je le vois bien dans ton, dans ton visage, mais j'imagine que ça fait mal aussi de savoir que la personne n'était pas bien, mais... Faut passer par là.
Ouais, je devais être pas bien live pendant trop longtemps à mon goût.
Puis là maintenant.
Il va bien.
Ah yeah! J'espère. Yeah, on est super heureux. Oui. Puis sinon tu l'espionneras. Je suis d'accord avec ça, moi, espionner les enfants, parce que c'est vrai que c'est notre job.
Il avait 12, 13, 14. Et je sais bien qu'il veut pas, qu'il voulait pas que je vois ce qu'il faisait sur Internet, puis il change régulièrement de nom de Tumblr.
Ah non.
Mais papa il travaille sur l'Internet aussi.
Ah, tu vois, c'est ça qu'il y a avec les nouveaux adultes aussi. Ils peuvent plus nous en passer, les jeunes. Non, on sait exactement.
Mais je pense qu'il savait que je l'espionnais parce que j'avais déjà dit. Fait que, à un moment donné, quand tu passes des affaires de maman en sachant que papa espionne, ben, t'assumes que papa va le voir, tu sais.
Ouais.
J'imagine qu'il y a une couple d'affaires qui voulait, je sais pas, il y a peut-être des affaires qu'il voulait me dire, fait qu'il mettait là.
Mais qu'il était pas capable.
Mais je sais qu'il était pas capable, j'en ai parlé une fois avec lui puis d'autres mondes, des spécialistes, disons, appelons ça comme ça, puis il m'a renié puis il voulait plus jamais me parler. 15 minutes après, on était revenu au neutre puis au point zéro, là, mais pendant le moment où j'ai sorti ça, il était tellement fâché, il était pas prêt à en parler, il était zéro prêt, ça faisait encore mal. Là, ça va bien.
Là, ça va bien. Yeah! Je ne pensais pas pleurer à cœur et croup, toutes sortes d'émotions, mais c'est pour ça qu'on fait ça aussi, puis c'est pour ça que les gens parlent de leur personnalité, parlent de leurs choses personnelles comme ils veulent, mais je trouve ça bien qu'ils t'aient permis de le faire aussi pour que ça puisse aider d'autres gens, tu sais, que sa belle histoire, justement, se propage.
Mais j'ai dit que je trouvais que c'était important de dire les histoires qui vont vers le bien, puis que de toute façon, je ne suis pas capable de m'empêcher de parler de lui, parce que j'aime trop. Et il m'a répondu un petit cœur.
Oh.
Et c'était comme la plus belle journée de ma vie. Il donnait aucune émotion quand il était plus jeune. Fait j'attrapais chaque petit morceau d'affection. Je le prenais. Je disais, OK, ben, je vais présumer que c'est fois 5000 parce que.
C'est un gros cœur.
Chaque petite graine qui tombe par terre, je la ramassais, puis c'était un festin. Fait que là, j'étais encore un peu de même. Là, des fois, il m'a. Puis ça. Me faire envoyer un cœur par texto par mon gars, c'est comme un roman d'amour qui venait d'arriver.
Ah, oh, c'est beau! Bon, mais l'émission est finie.
Il n'y a pas des questions. Pas des questions, là.
Oui,
peux-tu répondre à des questions?
On va passer, là. Il fait chaud ici.
La porte, je peux ouvrir la porte.
Non, c'était les émotions. Tu ne peux pas ouvrir la porte des émotions.
Oh, bon, Coelho, on se calme.
Par le thème, là, qu'on part.
J'ai une question. Toi, t'es en couple depuis longtemps,
oui.
Mathieu. Donc, je veux juste donner un contexte ici.
Je ne donnerai pas le nombre d'années, j'ai peur de me tromper, mais je sais que c'est plus que 7.
Ah non, plus que 7. Je pensais que c'était plus longtemps.
On se connaît depuis longtemps aussi, fait que c'est un peu flou pour moi.
Ah oui, des fois,
ça fait, oui, on peut dire longtemps. Fait longtemps.
Un long couple. Parce que, je choisis un peu, je filtre mes questions par rapport à l'invité. Donc, je voulais savoir si t'étais à l'aise avec ces questions-là. Mais ça, n'importe qui était en couple pourrait répondre et c'est touché. La question va comme suit. Vous avez abondamment parlé de quand et comment on doit dire « je t'aime » dans une nouvelle relation. Mais quand et comment doit-on dire « je ne t'aime plus » dans une relation qui s'effrite? Combien de temps doit-on se battre pour la survie du couple avant d'abdiquer?
Je ne sais pas.
On passe à une autre question.
Je ne sais pas, mais je pense que je ne suis pas bon là-dedans.
Tu penses que tu n'es pas bon là-dedans?
Non, j'ai tiré. Tiré
la
plug. J'en ai tiré une ou deux. J'ai laissé durer des affaires, j'ai même pas trop longtemps.
C'est dur, hein, moi?
Est-ce que tu penses que... C'est pas toujours clair, parce qu'on arrête... On n'arrête pas... J'aime encore mon ancienne blonde, Manon, je vais l'aimer jusqu'à la fin de mes jours, t'sais. Mais juste pas assez pour qu'on bâtisse une vie là-dessus, t'sais. Puis, ouais, c'est pour ça que souvent... Je sais pas si ma relation avec Manon... Je dis celle-là, mais comme imaginez n'importe quelle, là. Je sais pas si elle a... rouler trop longtemps ou pas. Quand on a fini, c'était effectivement fini, mais ça aurait pu finir 6 mois avant peut-être. Je sais pas.
Est-ce qu'en regardant maintenant, tu es capable
de relation, hein?
Est-ce que t'es capable de quand même, t'as fait des longs fade-out, mais est-ce que tu serais capable de mettre une délimitation à, genre, on aurait pu finir. Là c'était fini. À ce moment-là, on aurait pu tirer la plug. T'sais.
Probablement que la relation avec la mère de mon gars... Ça, je sais déjà que j'aurais pu finir ça vraiment mieux. Mais c'était difficile parce qu'il y avait un enfant, puis on était jeunes, puis que je comprenais pas tout ce qui se passait dedans de moi. Fait que la question est touchée parce qu'il faut être à l'écoute de qu'est-ce qu'on... faut être à l'écoute de soi-même, mais c'est dur de... C'est dur parce qu'on l'aime encore pareil. Si on pouvait juste passer de « je l'aime » à « mon Dieu que je l'haïs », ça serait
plus
simple,
facile.
Là. C'est comme, bon, ben, je l'haïs.
Ou
mais
si
non,
c'est passé
je
quelque
l'aime,
chose.
Mais c'est juste plus ça. Ça, c'est... Je sais pas comment on fait pour savoir ça.
Mais la notion de l'amour, c'est pas tout, c'est vrai, ça. Moi, avec mon ex, ça a été, je pense, la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. C'est de laisser quelqu'un que j'aimais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'sais, ça a été difficile, on s'aimait les deux, mais le couple fonctionnait plus. Je sais que moi, ils m'ont reproché de ne pas avoir essayé assez, mais je le savais deep down que j'aurais pu essayer plus avant ça. J'aurais pu essayer, mais ça aurait été des efforts. Puis je le savais que ce n'était pas meant to be. T'sais, puis ça, il y a eu des in and out. Après, j'ai voulu revenir parce que j'aimais trop. Il a voulu revenir. Mais maintenant, avec recul, je pense qu'il serait d'accord aussi. Cette relation-là, ça marchait, ça n'aurait pas fonctionné, ça ne marchait pas. Mais de dire à quelqu'un, la relation ne marche pas, je t'aime, mais il faut que je m'en aille, c'est difficile.
Ouais.
C'est extrêmement difficile. Ça m'a fait mal pendant longtemps, mais j'ai souvent des questions comme ça qui sont, tu sais, est-ce qu'il y a une limite de temps? Est-ce que c'est quoi le moment? Il n'y a pas de moment, tu le sais, puis il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux aussi.
Puis on est-tu encore en train de construire la même maison? Tu sais, c'est ça aussi, être en couple avec quelqu'un, c'est comme on bâtit de quoi ensemble? Puis ça, on est-tu encore en train de bâtir la même affaire ou... On n'a plus les mêmes plans que quand on s'est rencontrés il y a 5 ans, 6 ans, on était cette personne-là. Puis là, ben 5 ans, 6 ans plus tard, après, j'étais allé faire un bac. Toi, t'as changé de job 2 fois. Puis ta mère est morte. On est plus la même personne. Ça se peut que ces deux personnes-là, à chaque bout du fil de 5-6 ans, ça soit plus fait pour... Mm. C'est ça. C'est moi encore, mais on construit pas la même affaire. Je sais pas comment on fait pour savoir ça. J'en ai aucune idée. Je peux aussi goûter beaucoup. Puis des fois, t'évoques la question, puis soit tu te rends compte que ouais, c'était vraiment ça, ou que non, en le faisant, tu fais que non, OK, non, c'était pas... Puis c'est probablement important de dire les moments où on n'est plus sûr.
De se
dire. Pour qu'on puisse se rendre compte les deux que finalement, on est sûr. Ou que finalement, on est deux à se dire que non.
Puis tu peux prendre une décision ensemble aussi.
Ben, idéalement, ouais. Tu...
Parce que si les deux veulent essayer, ben, tant mieux. Tu essaies les deux, tu donnes des trucs, tu te prends les moyens. Tu peux aller voir un sexologue, tu peux aller voir un spécialiste, tu peux... Il y en a qui restent ensemble super longtemps. Mon père a resté avec sa blonde pendant 29 ans. Ils en ont eu des creux, puis ils en ont eu des... Elle avait 2 enfants, lui un. On a déménagé beaucoup. Donc, à un moment donné, des fois, ça fonctionnait pas. Il y a des moments où ils n'étaient pas dans la même maison parce que ça fonctionnait juste pas. Fait qu'ils étaient un couple, mais ils étaient dans 2 maisons différentes. Ils se sont rendus compte qu'ils s'ennuyaient, ils sont revenus. T'sais. Ou tu peux essayer de je sais pas, il y en a qui reprennent, qui font des cours ensemble, qui reprennent des date nights. Tu peux voir si tu peux repartir la machine. Mm. Mais s'il y en a un des deux qui veut vraiment pas, ben le fait de s'en parler, t'es fixé. T'sais.
Ouais. Ben si t'es rendu à te demander, je devrais-tu lui dire que je l'aime plus,
oh.
Tu peux probablement y en parler.
Parce que...
Puis te rendre compte que finalement, oui ou finalement non. Mais ça semble assez... Ouais, OK, ouais, je pense que la réponse, ça serait si t'es rendu à te demander ça, il y a probablement quelque chose que t'as besoin de jaser avec l'autre personne.
Ouais.
C'est peut-être pas... La réponse finale sera peut-être pas que c'est fini. La réponse va peut-être être que c'est fini. Mais au moins, vous allez le savoir.
Tu vas le savoir.
Mais c'est signe que t'as quelque chose à jaser.
Il y a rien de pire que de se sentir tout seul dans une relation. Puis tu sais, de rester malheureux dans une relation, moi, je me suis dit... Plus jamais, tu sais. Mon copain aussi était malheureux dans une relation, puis on s'est juré que quand ça va pas, peut-être pas sur le coup, mais faut se le dire, tu sais. Mais si tu sais que tu n'as plus d'émotion, d'amour pour la personne, je pense que ça, c'est un bon indicateur. Mais il y a aussi des gens qui restent... tu sais, je pense que ça dépend de l'âge, où est-ce que tu es dans la vie aussi. Il y en a qui restent pour les enfants, il y en a qui restent qui ont, tu sais, à un certain âge, ils veulent juste du... Je sais pas c'est quoi en français, du companionship. Ils veulent juste pas être tout seul. Puis si t'es à l'aise, si les deux sont honnêtes avec ça, c'est correct.
Ben oui. Faut peut-être juste reviser le modèle que vous avez en ce moment. Mais ouais, non, je maintiens ma réponse. Si t'es rendu à te demander, coudonc, ça se peut-tu que je l'aime plus, t'as quelque chose à jaser.
Ouais.
Jase-en.
Oui. J'ai l'impression que la personne qui... J'ai souvent cette impression-là. C'est la personne qui nous a envoyé la question devrait peut-être avoir une bonne discussion. C'est ce que je pense que des fois, on a peur. On a l'impression que c'est fini, mais on se dit, est-ce que je baisse les bras trop vite, parce qu'on a l'impression aussi que c'est dans l'air du temps aussi que les gens changent de couple vite. Et on a trop d'options maintenant. Sauf que, tu sais, avant d'arriver là, faites juste en parler. Tu vas le savoir.
Pas obligé d'arriver avec la réponse, mais arriver avec des questions.
Ouh, j'adore ça.
C'est peut-être même plus payant.
Oui, je prends des notes. Et justement, toi, tu habites avec ta copine.
Mm-hmm.
J'ai une question qui dit « Est-il primordial pour un couple d'habiter ensemble? Peut-on vivre chacun de notre côté pendant 10 ans, mais être en couple ensemble et heureux? »
Ben oui.
On passe à notre question. Mais je pense que ça dépend de ce qu'on veut. Comme je disais, mes parents qui se séparaient de maison, mais ça, c'était surtout parce que, bon, avec 3 enfants, puis avec le stress, puis avec tout ça, c'était compliqué. C'était pas juste le couple, il y avait d'autres facteurs. J'ai un ami qui est en couple avec sa blonde depuis 6 ans, qui viennent de s'acheter un condo ou de prendre un appartement, je crois, parce qu'ils sont bien chacun, ils se voient tout le temps, ils sont ensemble, ils ont chacun leur tiroir l'un chez l'autre, mais ils ont besoin de leur intimité, ils ont besoin de leur petit appartement. Puis là, après 6 ans, là, ils sont prêts, puis ils se disent « ben ça me tente plus, on va habiter ensemble, go », tu sais. Puis j'ai des amis qui ont déménagé ensemble après 1 an, puis maintenant, ils ont un enfant, puis ça dépend de ce que tu as envie, ça dépend de ce que tu as besoin.
Mais oui, on est 8 milliards sur la Terre. On fonctionne pas tous de la même façon.
Non, c'est ça. Puis le problème, c'est si ça dépend des besoins des deux, ça dépend si les besoins sont différents l'un l'autre. T'sais, s'il y en a un qui a besoin d'être avec qui est plus soit dépendant ou qui aime plus vivre avec la personne, voir la personne tous les jours, et l'autre non, ça peut bloquer.
Ouais. Mais non, ça peut être normal.
Mais il y a aussi un moyen de, comme, tu sais, justement, avec, bon, c'est pas un bon exemple, mais avec mon ex, il avait beaucoup besoin d'être seul, mais il y avait un bureau. Il y avait un très grand bureau avec tout son stock, avec son ordi, avec ses affaires.
Oui, si vous êtes deux travailleurs indépendants, peut-être que travailler dans la même maison en plus de faire à souper dans la même maison, puis de dormir dans la même maison, puis de faire la vaisselle dans la même maison, ça peut faire beaucoup d'affaires dans la même maison. C'est... Puis peut-être que de splitter, on fait qu'on se revoit à 5 heures, ma belle, ça peut faire du bien.
De se donner des moments de solitude, d'avoir un bureau, une pièce, ou d'avoir, mon copain avec son ex, il y avait un atelier. Les deux sont dessinateurs. De temps en temps, il y en a un qui était comme « Bon, ben là, travailler à la maison, ça va faire. Je vais aller travailler à l'atelier. » Il y avait du temps tout seul pour faire leur projet, pour faire leurs choses. Il n'y avait pas besoin de mettre l'autre à la porte. Pour jouer tout seul.
Mon travail de création demande beaucoup, des fois, d'être... Je sais pas si c'est dans ma bulle, mais je suis dans un mode travail, puis si elle me parle, ça va comme briser un flot d'idées qui était en train d'être là, puis je vais y répondre vraiment bien. Maintenant, on détecte mieux ces moments-là, puis je fais juste dire comme « Non! » Puis, comme, ça sera pas maintenant, tu sais, mais c'est ça, tout le monde fonctionne différemment, puis ça se peut que t'aies besoin de plus de ta bulle que moi, ou que toi, ou que les 6,99 milliards d'autres personnes sur la planète, puis ben encore là, parlez-en avec l'autre. Je pense que toutes les réponses, on va finir
par fait que bon, on arrête cœur et croupe, faites juste vous parler tout le monde.
Faites juste vous parler, gang.
mais en même temps, puis
mais faut pas avoir honte, en fait, c'est surtout ça, faut pas... Ça... Ben, je pense que la personne qui le demande va avoir moins de misère que la personne qui se le fait demander. Ouais, la personne qui se le fait demander risque de se dire « Ah, mon Dieu, c'est parce que j'étais une grosse fatigante, puis qu'il m'aime plus, il veut plus me voir la face. » Non, non, il peut juste être de même. Il vous apprécie encore plus quand il vous revoit. Il y a moins de moments où vous lui tapez ses nerfs. Justement, les gens nous tapent toujours ses nerfs à un moment donné. Là.
Oui, c'est pas parce que tu l'aimes pas.
Il y a personne qui est blindé contre taper ses nerfs à quelqu'un d'autre. Fait que ne pas se voir peut être ne pas se voir tout le temps peut être un moyen de réduire les moments où vous vous tapez mutuellement ses nerfs.
Puis
la personne, tu sais, vous arrivez à un compromis entre les deux, là, vous n'êtes pas obligé d'être aussi séparé que la personne voudrait l'être, puis pas aussi collé que l'autre personne voudrait l'être. Puis moi, il arrivait à quelque chose entre les deux, mais j'ai déjà une amie qui était inquiète parce qu'elle et son chum avaient décidé justement de faire appartement à part. Ils ont fait ça pendant un an et demi finalement, puis ça leur a fait du bien. Mais j'ai dit, ben, c'est quoi le problème? Là, vous aimez? Ouais. Bon, ben, c'est quoi le...
Mais c'est peut-être parce que, justement, on a ce modèle-là, puis avec les réseaux sociaux, avec tout le monde qui étale son bonheur, on a l'impression, ah, mais je suis pas ce petit couple-là qui est tout le temps ensemble, qui est pareil, qui a le petit appart. Ça veut-tu dire qu'on est moins amoureux? Ça veut-tu dire qu'on est un moins bon couple, entre guillemets? Ça a aucun rapport. Même si quelqu'un veut... Tu sais, tu voudrais déménager avec quelqu'un, puis l'autre veut pas, ça veut pas dire qu'il t'aime pas, tu sais. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il est juste, il veut rester en bobette chez eux.
C'est peut-être parce qu'il t'aime qu'il ne veut pas te voir tout le temps.
Ah.
Il ne veut pas finir par...
Se tanner.
Ben, c'est ça. Être tellement dans une position qui n'est pas celle, la sienne, qui n'est pas sa façon d'exister dans sa bulle, qu'il n'est plus capable de t'avoir, point.
Il protège l'amour, dans le fond.
Qu'est-ce que je viens de dire là?
On a compris!
Je me suis arrêté, puis je me souvenais plus du début. Mais... C'est ça. Il y a peut-être que cette personne-là a besoin de ne pas te voir tout le temps pour pouvoir te voir plus puis te voir mieux. Parce que si t'es tout le temps là, à un moment donné, tu vas juste être peut-être trop là pour sa façon d'exister à lui. Puis tu peux le perdre si tu t'acceptes pas de le perdre juste un peu des fois. Tu peux le perdre au complet si t'acceptes pas de le perdre un petit peu des fois.
Wow! Ben est comme, yep, c'est beau ça. Je pense que je vais faire printer des t-shirts après cet épisode-là avec toutes ces phrases.
On va se tirer le menton puis regarder l'infini un peu.
That was deep. Ah! Justement, celle-là, je l'aime bien. On en a parlé un petit peu avant. Faire chambre à part dans un couple, pour ou contre?
Ben, moi, j'ai fait chambre à part
parce que je ronfle
et que c'est dégueulasse. Quand je ronfle, je fais de l'apnée du sommeil.
Oh boy!
Ouais.
On a un ami qui fait de l'apnée du sommeil. C'est
sous contrôle, mais je ne le croyais pas jusqu'à temps que j'enregistre mes ronflements et moi-même, je fais comme « Chris, c'est donc bien dégueulasse cette affaire-là! » Si c'était régulier, au moins, si quelqu'un fait juste comme... Non, c'est pas comme dans les comics où c'était régulier, c'était plus quelque chose comme... Et là, rien pendant comme 10 secondes, parce que je respire pas.
Oh non, mais
C'est dégueulasse.
Tu peux pas dormir à côté de ça.
Ben,
c'est
ça.
Tu peux pas t'en sortir avec des bouchons.
Je suis en train de la rendre malade. Fait que j'ai commencé par aller dormir sur le sofa. Elle-même allait dormir sur le sofa. J'ai dit, ça n'a pas rapport. Là. Comme, c'est pas toi qui vois. C'est moi qui fais du bruit. Fait que toi, tu vas rester dans le lit. Moi, je dormais sur le sofa. Je commençais par dormir sur le sofa. On a fini par upgrader en mettant un matelas par terre dans le coin du salon Doom.
Oh
on a fini par l'upgrader à un vrai matelas. Puis là, c'est un matelas sur un lit. Puis c'était finalement ma chambre, finalement, à cette place-là. Mais c'était comme. Ça s'est fait en 3 ans, à peu près, là, comme le move de ma chambre.
Notre
chambre
rentre.
À ma chambre. Et, ben. Ça a ses avantages. Je vais commencer par les avantages. J'aille pas ça, finalement, dormir tout seul. Ça fait que je peux regarder des vidéos sur mon téléphone jusqu'à 3h du matin, puis je dérange pas personne. Ce qui est pas bon pour ma santé. Fait que, je mets ça dans les avantages. C'est un peu comme, je peux manger autant de chips que je veux. Bon, c'est le fun sur le coup. C'est sûr que c'est pas bon pour ma santé. Mais mettons ça dans les avantages. On parlait justement de faire de vivre à part. J'ai redécouvert une partie de ma bulle dont j'ai peut-être plus besoin que je pensais. Ouais, il y a ça. Il y a ça qui existe. J'ai ma chambre, puis elle aussi, elle a sa chambre. Puis vu la façon dont ton appart est placé, elle a besoin d'une pièce à soi, puis c'est devenu comme sa chambre. Là, elle l'a comme décorée, puis c'est plus ma chambre. Là. Ça aussi, ça s'est fait lentement. Là. Ça a été un peu un deuil à faire, que c'est plus notre chambre, c'est sa chambre. Maintenant, mon linge est rendu dans ma chambre, puis son linge est dans sa chambre. Le garde-robe est un peu commun parce qu'il n'y a pas de garde-robe dans ma chambre. Fait que ça. Fait que les avantages, c'est ça. Mais dans les désavantages, évidemment, ben, c'est facile, fun, se réveiller collé contre quelqu'un.
Même
ça, ça nourrit, se réveiller collé contre quelqu'un.
S'endormir aussi.
Ça nourrit.
Pleure pas, Ben!
Mais ça nourrit de comme toutes les façons possibles, là, physiquement, émotivement, mentalement, puis ça nourrit le couple aussi.
Ouais.
Fait que ouais, je m'ennuie de ça. Faudrait que j'aille plus souvent la rejoindre le matin.
Mais j'imagine qu'il y a des habitudes qui s'installent aussi. T'es bien dans ton lit.
Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai décidé qu'en 2018, j'allais plus souvent aller la rejoindre parce que ouais, ça ferait du bien à notre couple. Qu'on fasse ça plus souvent.
Et au niveau de la sexualité, j'imagine que ça aide pas non plus? Ça brise la spontanéité, au moins?
Non, ça peut être quand même super spontané, mais comme je disais, se coller ensemble le matin, puis le soir, puis pendant la nuit, c'est des préliminaires inconscients, ou c'est des préliminaires gratis? Voilà, c'est du préliminaire gratis. T'as déjà comme ça de fait, fait que t'as juste à un moment donné, faire comme... un petit bec dans le cou, puis comme t'es déjà parti, tandis que si tu t'es pas collé du tout depuis comme 2 semaines, ben ça peut avoir l'air un peu raide quand t'arrives.
Salut, on fourre-tu en quittant la porte?
Il y a un peu de ça.
Un peu moins romantique.
Ça revient un peu à ce que je disais de faire chambre à part, mais arrangez-vous pour...
Trouver des moments d'intimité
aller chacun
quand
dans
même.
La chambre de l'autre avant de dormir, après avoir dormi. Ouais, arrangez-vous pour avoir quand même ces moments-là parce que ça nourrit beaucoup, puis c'est du préliminaire gratis.
Okay.
Serait fou de s'en passer.
Oh oui! donc c'est possible, c'est juste qu'il faut faire attention à conserver l'intimité, conserver un peu la libido.
C'est ça. Il y a des choses qui viennent gratis avec le fait de dormir ensemble, puis là, faut que tu les organises. J'aime pas organiser, mais faut que tu y
faut
penses. Faut
que tu fasses un planning.
Faut que tu les conscientises. Faut que tu les ramènes au niveau conscient au lieu de juste les avoir gratis tout cul dans la bouche.
C'est facile
mais
d'oublier ça.
Ça peut faire du bien à votre... si c'est votre façon de fonctionner, c'est votre façon de fonctionner. Il n'y a pas de honte à
puis,
ça.
Puis encore là, c'est ça. C'est un modèle différent. Puis j'imagine que c'est vraiment ça aussi, que les gens ont peur que ça envoie le message aux autres. Puis que c'est pas de leur maudite affaire, anyway. Que le couple va moins bien ou vous êtes moins heureux, mais ça a aucun rapport. C'est juste qu'elle, elle doit être bien plus heureuse de pouvoir dormir maintenant qu'avant.
Elle n'aurait pas survécu à mon... elle serait morte de mon apnée du sommeil.
Non, ça a sauvé votre couple. Oh non, morte de l'apnée du sommeil de l'autre.
De l'autre. C'est même pas toi qui rompes.
Moi, j'ai des flashbacks de quelqu'un qui fait l'apnée du sommeil. C'est surtout le petit cri de « je me remets à respirer » qui... ça réveille sec en plein milieu de l'apnée.
Si votre blonde ou votre chum vous dit que vous ronflez et que vous le croyez pas, downloadez une application qui monitore votre sommeil puis jetez une oreille à ça. Peut-être que vous allez pogner de quoi. j'ai pris mon rendez-vous chez le médecin très, très après m'être entendu. Quand je fais OK, non, c'est le besoin d'un médecin. C'est pas juste ronfler, là. Puis je peux pas juste dire, non, habitue-toi. Non, non.
Non,
c'était dégueulasse.
Personne peut s'habituer à ça.
Puis l'autre personne est là pour comme surveiller notre santé en général, l'habiter à deux, c'est aussi comme avoir quelqu'un qui peut remarquer quand on a des poussées de boutons dans le dos puis qu'on fait des bruits la nuit. Fait que, comme, profitez-en, là. C'est un autre truc gratis. Puis souvent, les gars ont la tendance à le remarquer moins. Rendez ça. Votre conjoint doit remarquer probablement plus d'affaires sur vous que le contraire. Rendez-le lui un peu, comme, ouvrez un peu vos yeux et vos... comme quand vous voyez de quoi, comme, mentionnez-le. Puis peut-être que vous allez lui sauver la vie un moment donné quelque part.
Oui.
Ça de même.
Avec la prochaine question, on n'arrête pas de dire que la communication, c'est important. On l'a dit dans les autres podcasts. Tout le monde dit ça, ça a l'air d'un cliché. Tu l'as dit tantôt. J'ai quelqu'un qui demande si on a des trucs pour communiquer nos besoins, en couple ou non, amoureux ou sexuellement. Comment dire à l'autre de quoi on a besoin? Parce que ça peut... Tu sais, on a parlé de comment, au dernier épisode, de comment amener des kinks au lit, mais ça peut être un besoin affectif, ça peut être des besoins qui ne sont pas comblés dans le couple. Donc, et c'est pas facile. En fait, c'est que moi, je pense que c'est pas facile parce qu'on se montre en quelque sorte vulnérable, ou ça peut passer comme un reproche, peut-être, de dire à l'autre, j'ai un besoin qui n'est pas comblé en ce moment. As-tu des trucs, Mathieu? Comment tu fais, Mathieu? T'écris une joke?
Je sais pas si c'est le genre de situation où il y a des trucs. C'est pas comme... tu peux pas régler ça avec du bicarbonate de soude.
Non.
C'est comme le bicarbonate de soude. Le dessous, ça fait tout, sauf ce genre d'affaire-là. Puis c'est peut-être plus de, sur le moyen puis le long terme, d'établir des relations où est-ce que les choses ont le droit d'être dites, puis peuvent se dire, puis ils sont accueillis quand elles sont dites.
Mm-hmm.
Je pense que ça se passe, c'est le moyen terme. Mais là, si je veux l'aider comme maintenant, là, qu'est-ce que je dirais?
Mais en fait, Rosamie, je l'ai mis sur le Facebook, il y avait une application qui sert justement à poser des questions. Ça peut être sur les habitudes ou ce que l'autre pense ou comment l'a déçu. Donc, ça peut... j'aime pas ça, ce mot-là, mais ça peut être fait de façon ludique. Ça m'énerve tellement, ce mot-là. Ça peut être fait de façon ludique. Ça peut être un jeu. J'avais un cahier, moi, qui était justement... C'est chacun écrit ce qui l'énerve de l'autre, ce qui aime le plus de l'autre ou des trucs comme ça. Ça peut être amené comme ça, mais si tu peux... Mais ça ouvre des portes. Après, si t'en fais ce que tu veux, ça peut aider, donc de manière drôle. Mais j'ai pas l'impression que tu peux avoir une conversation si profonde que ça, peut-être. Là, mais
Peut-être qu'il peut juste l'essayer et être bien, bien surpris que c'est pas si dur que ça.
De juste le dire.
Peut-être que des fois, on a juste bien, bien peur de sonner comme je sais pas quoi, ou que ça soit mal accueilli. Puis, ben, on sort pas avec ces filles-là et ces gars-là pour rien, là. Ça doit être des bonnes personnes si on est avec.
Je vous le souhaite.
Ils sont souvent capables d'accueillir plus que qu'est-ce qu'on pense. Je sais pas, j'ai une tendance à faire bien, bien, bien confiance aux gens. Puis
ça fonctionne?
Ben, à date? Peut-être oui, mais je m'entoure peut-être de juste de bonnes personnes. C'est pour ça que je peux faire ce genre de confiance-là. Mais ouais, essaye-le. Tu vas peut-être être surpris que c'est pas si tough que ça. Puis parler en disant comme... Commence par mettre la table en disant comme faut choisir de quoi, je me sens pas bien, j'ai peur que tu me juges. Fait que l'autre personne, si t'es un minimum attentif, va retenir qu'est-ce qu'elle va réagir. Puis ouais, mais essaye-le. Tu perds quoi?
Puis je pense que justement, tu sais, il y a une façon de bien le dire là, sans faire des accusations, puis de penser avant comment on va amener ça, là, pas que ça tu blurres ça au souper, puis de faire
des... Ouais, ben, choisis ton moment, là.
By the way, tu peux! Mais... bénéfice étouffé. Donc, c'est choisir son moment, mais justement, moi, j'essaie tout le temps de faire ça aussi, comme tu disais, de dire comment tu te sens, comment t'as peur que ce soit perçu, ou comment t'as peur que ce soit retourné, dire... J'ai peur que tu m'aimes plus, mais... Ou je veux pas te faire de peine, mais... Ou, tu sais, prends-le pas mal, mais... Puis comme tu dis, c'était avec la personne.
Tu sors pas avec des nonos.
Sortez pas avec des nonos, tout le monde.
Sortez pas avec des nonos.
Puis on peut développer aussi des... tu sais, si ça fait longtemps que t'es avec la personne, ou tu la connais bien, tu peux développer des mécanismes ou des trucs. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Je dis tout le temps, moi et mon chum, on fait de l'anxiété. Des fois, juste de dire comment on sent, ça nous garoche dans une crise d'anxiété parce que ça nous montre vulnérable, parce qu'on a peur. Fait que juste de dire « je file pas », juste de dire « je m'ennuie de toi », des fois, ça nous met dans un loop incroyable. Fait qu'on s'est découvert on s'est donné des codes Donc, il y a, je pense qu'il y a Nicolas Cage, il y a Ben Affleck. Et ces codes-là, j'avais lu ça dans un article, quelqu'un qui disait que son chum faisait de l'anxiété et de la dépression, mais eux, c'était des codes de couleur. Mais comme les mots ne veulent pas sortir, les mots genre « je me sens comme une marde aujourd'hui » ou « peux-tu me parler, s'il te plaît, je ne file vraiment pas », juste de dire ça ou même juste de l'écrire sur Facebook, des fois, ça bloque, on n'est pas capable. Fait que d'écrire Nicolas Cage, c'est beaucoup moins difficile que de dire « je file comme une merde, peux-tu me parler, s'il te plaît? » Fait qu'on on a développé des codes. D'ailleurs, je me rends compte qu'on l'utilise, on n'a plus besoin de les utiliser, donc ça a passé. Mais de découvrir des fois des petits insides comme ça, ou le dire en petit joke, se faire un code, si t'es pas capable de le dire, tu sais, ça vaut, je pense pas que ça vaut pour partir une grosse conversation sur un nouveau sujet. Mais d'avoir d'avoir ton propre dialecte. Tu sais, dans un couple, ça fait tout le temps ça, de toute façon. T'as des insights.
Ce que tu es en train de dire revient à ce que j'ai dit au début de ces questions-là. Ça part sur, à moyen puis long terme, établir une relation où les choses ont le droit d'être dites puis ont le droit d'être accueillies.
Puis tu... Oui.
Ça part beaucoup, beaucoup de ça.
Puis justement...
Puis ça, puis pas sortir avec des tatas.
c'est ce qu'on retient. Puis c'est aussi comme tu dis, de si quand lui te parle... T'as une bonne réaction, tu vas attendre la même chose de lui. Vous allez savoir dans le futur que l'autre va avoir une bonne réaction. Donc, être à l'écoute aussi, pas juste communiquer, mais être à l'écoute de l'autre, c'est une bonne chose aussi. Oui.
OK.
j'ai une question qui est partie qui a beaucoup plus de contexte, qui est partie d'une discussion que je trouvais ça assez intéressante, qui fait un lien aussi avec ce qu'on disait tantôt avec les gens qui ne sont pas des adultes. C'est le fun de ne pas être un adulte, en fait. J'aime pas mal ça, pas être un adulte. ça me donne d'être un adulte. Donc, c'est quelqu'un qui dit « Je suis un gars de 35 ans. Je vis seul en appart et j'ai une relation sans attache avec une amie. Je me sens bien, mais je me demande parfois si je devrais pas être en train de vouloir me marier, avoir des enfants comme la plupart des gens autour de moi. Je me demande si je vais ne pas regretter à un moment donné de ne pas avoir fait ces choix-là. »
Bah, c'est des fois, on regrette d'avoir des enfants.
Oh non! Donc,
non, mais
oui, effectivement.
Tu peux toujours regretter tout dans ta vie, mais... En veux-tu des enfants? Peut-être qu'il n'en veut pas. Peut-être qu'il a pas envie de se marier. Peut-être que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il juge son propre... Il juge sa propre vie parce qu'elle compare à d'autres, mais c'est-tu nécessaire de faire ça?
Non, mais je pense qu'il y a encore aussi... Il y a peut-être... Tu sais, là, c'est un gars, mais si c'était une fille, il y aurait peut-être le fait qu'après un certain temps, c'est plus difficile d'avoir des enfants aussi. Ou peut-être que, d'après le contexte, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a peur que, bon, les gens voient ça, des fois, on est tout le monde va être casé, puis moi, j'aurais pu... C'est pas une chaise musicale. tout le monde va s'asseoir. « Oh non! Il n'y a plus de femmes disponibles, c'est fini! » Non, il y en a tout le temps, puis ils reviennent sur le marché. Désolé de l'expression, il y a un roulement, là. Il n'y a pas de...
Effectivement. Mais je sais pas. Je pense qu'on tout se regrette.
Oui.
T'es...
C'est correct. Tu peux faire avec après, tu sais. Ta vie n'est pas finie. Tu peux avoir des regrets, puis ça passe, puis...
Tu sais, je commençais le podcast en disant qu'avoir un enfant a changé ma vie, puis 48 000 fois, puis que je suis content de tout. Si on me donnait l'option de ne pas avoir d'enfant à 19-20 ans... Peut-être que je le ferais. Tu sais, ça dit rien sur l'enfant que j'ai là, comme je l'aime infiniment, vous l'avez entendu au début, mais je pourrais-tu refaire la même vie, mais moins de troubles? Ben, why not? Fait que, est-ce que je regrette d'avoir un enfant? Ben, ça se dit pas, là, mais comme il y a probablement une forme de... Je serais curieux de savoir ce que ça donnerait si j'en avais pas eu.
Ta vie parallèle.
C'est ça. Puis est-ce que je regrette d'être resté 8-10 ans avec mes autres blondes d'avant? Ben, non, mais ça aurait pu être intéressant de ne pas faire ça. Ça aurait pu être intéressant de pas juste comme avoir des longues relations une après l'autre, puis comme avoir comme un 3 ans de ma vie où je suis un célibataire au lieu d'être un gars en couple depuis 15 ans, tu sais. Fait que tout se regrette. Je sais pas si regret est le bon mot, là, mais il y a toujours... Chaque affaire que tu es en train de faire, c'est quelque chose que tu es en train de ne pas faire.
Les sliding doors.
Tu sais, tu es toujours en train de ne pas faire quelque chose. Fait que si ce que tu es en train de faire là à 35 ans avec... Puis peu importe le type de relation que tu as avec l'autre personne, ben, si c'est ça que tu aimes faire en ce moment, puis que ça te nourrit assez, puis que. Ouais, ça te nourrit-tu assez? C'est-tu une nourriture
je sais pour pas
ton
si
corps
le...
et ton esprit? Si oui, ben. As-tu besoin de faire comme tout le monde?
Pas non, je pense que je ne sais pas si le stress est intérieur, puis j'imagine qu'il y a ça aussi, et comme, bon, j'ai 35 ans, je devrais avoir une meilleure job, je devrais avoir une maison, je devrais, mais c'est ça. C'est cliché, mais c'est un construit social, comme on disait, il y a toutes sortes de modèles, puis dans une autre société, c'est peut-être pas la même chose, c'est peut-être pas ça qui est gratifié. Ou
s'il se pose la question, c'est peut-être qu'effectivement, il aimerait mieux avoir d'autres choses.
Peut-être.
Moi, j'ai l'impression que la moitié du temps, quand les gens, quand des amis me disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire ou qu'ils sont vraiment confus, ma réponse est généralement de leur dire « T'es-tu sûr que t'es pas juste comme bien certain de ce que tu veux faire et t'es pas capable de te le dire? »
T'as juste peur.
Tu sais, parce que moi, ça m'arrive vraiment... Je trouve qu'une des façons de... C'est souvent facile de faire semblant qu'on ne sait pas puis qu'on est vraiment en train d'hésiter entre deux, trois affaires.
Mm-hmm.
Parce que la vérité, c'est qu'on a choisi puis qu'on est juste pas game. ou que ce qu'on sait intérieurement qui est la vraie affaire, ça fait peur. Ou ça implique qu'il va falloir changer des affaires. Fait qu'à place de ça, on fait comme si on n'était pas certain, puis qu'on se posait des questions, puis là, on en parle avec d'autres. Mais si t'as besoin d'en
juste
parler avec d'autres, c'est
confirmer.
Peut-être... Fait que... Ouais. Fait que est-ce que... Peut-être que... Ça, fait que la personne, peut-être que ça va super bien jusqu'à maintenant, puis arrête de te comparer aux autres, puis fais ta vérité à toi. Ou si tu te poses la question, c'est-tu parce que tu le sais, mais que tu es encore à l'étape de faire semblant que tu le sais pas, puis tu te poses des questions.
Mm-hmm.
Puis peut-être que la personne dans la question avec qui il y a une activité qu'il aime bien, est-ce qu'il voudrait que ce soit plus? C'est pour ça qu'il pense que peut-être les enfants... Là, je lis beaucoup là, dans une question
de 5 lignes. Oui, il y a l'interprétation, mais c'est une avenue possible aussi.
Mais toutes ces affaires-là existent peut-être, mais... Non, t'es pas obligé à 35 ans de penser avoir une maison, un enfant, puis un chien.
Puis je déteste aussi le fait que les hommes qui sont comme ça souvent sont dépeints aussi comme des losers beaucoup dans les films, dans les émissions. Justement, un gars célibataire, 35 ans, qui joue à des jeux vidéo, c'est un loser, il a pas réussi, mais ça n'a aucun rapport. T'es pas un loser, t'as pas réussi si t'as pas une femme, des enfants. J'imagine que ça doit être dole quand il va dans sa famille à Noël, ils sont comme « Pis, t'as-tu une petite blonde? Quand est-ce que... » Ben, il comme « Oh, tabarnak! » Pis quand est-ce que tu me fais des petits-enfants et tout? Mais faut que les gens acceptent que, justement, ce genre de vie-là, c'est pas vrai, c'est plus vrai que c'est fait pour tout le monde. Et c'est tant mieux, parce que, comme on dit, il y a tellement de gens qui étaient dans cette vie-là pis qui étaient pas heureux, ben tant mieux si tu peux passer à côté de ce modèle-là pour faire d'autres choses, t'sais. Mais peut-être qu'ils se demandent s'ils seraient plus heureux comme ça, mais essaye.
Ben, peut-être que tu serais plus heureux de même. Qui sait?
Puis je m'excuse, mais 35 ans, c'est jeune, 35 ans.
C'était moi, il y a un an. Je...
Dans le temps! Je me souviens quand j'avais 35 ans. J'aurais pas dire que je suis vieille parce que j'ai presque 36. Je suis une vieille dame. Mais non, dans le big scope de la vie, non. Il y a encore des gens à 60 ans qui se remettent en couple, qui se séparent, qui changent. Mon chum. Oh boy! Freud, mon père. Sorry, daddy. Mon père a changé de carrière complètement quand il y avait... 60 ans, je pense. T'sais. Des fois, j'ai des amis qui sont comme « Oh, ma vie est finie, j'ai 35 ans, j'ai pas de carrière, j'ai pas de job, important, nanana. » Mais non, tout peut changer. T'sais. T'as pas d'enfant à 35 ans, surtout un homme, tu peux toujours en avoir.
Tu ouais, peux, mais à un moment donné, tu deviens fatigué rapidement. Puis...
Ouais, jouer avec un bébé dans le salon à 40 ans. Là,
moi, j'ai pas d'autres enfants, puis il y a plusieurs raisons à ça que je n'aimerais pas, mais une des raisons, c'est que quand je regarde ma sœur avec ses deux enfants attacher des bottes, puis faire manger des bols de céréales, puis dire « Non, là, tu t'assois, puis tu manges. » Ah, oh, non, je peux. Je l'ai déjà fait. Puis c'est pas pour rien qu'on fait les enfants tout un après l'autre, parce que
si tôt
que t'arrêtes, t'as pas envie de recommencer.
Non,
ça. Je sais pas si un jour je vais avoir envie d'attacher des bottes puis des manteaux d'hiver.
Moi, des fois,
mon Dieu. Je l'aimerais infiniment, cet enfant-là, si j'en avais un, mais... Je suis pas sûr que ça me ferait pas chier d'en m'en
occuper. Moi, je suis fatiguée, je t'ai pensé. Je vois des gens avec trois enfants. Là, j'ai un collègue qui a cinq enfants, puis il y avait un autre, puis je suis comme... j'ai des cernes juste quand tu m'en parles, je suis pas capable. Puis tu sais, peut-être que si mon copain voulait un enfant ou quoi que ce soit, peut-être que j'en aurais un autre. Mais j'ai tout le temps, tu sais, quand je vois un bébé, je suis comme « Oh mon Dieu! » J'ai l'utérus qui crie, qui fait un backflip. Je veux d'autres bébés, je leur pince les joues. Là, ça se met à pleurer, ça pue. Je suis comme « Oh, finalement, nope! No! » Ou il y a un toddler qui fait le bacon mm-hmm. dans le métro, puis je suis comme « Ça m'arrivera plus, c'est plus mon problème. »
Pas pour rien que t'es on les fait tout un après l'autre.
Non,
pendant que t'es en train de le faire,
okay. T'y penses pas.
Hey, mais faut pas t'arrêter.
Non, c'est le truc. Mais non, c'est ça. Je pense que se mettre du stress sur ce qu'on est supposé être en train de faire...
Il n'y a rien que t'es supposé.
Ah ouais, à part certaines responsabilités, mais non. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui était beaucoup basé sur le... On peut-tu se refaire un modèle? On peut-tu être qui on veut? On peut-tu arrêter de penser à ce qu'on devrait être puis faire? Puis les autres, peuvent-tu arrêter de nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas, puis nous juger, puis on devrait arrêter de les écouter.
Ouais, Barnouche. Mais faut aussi accepter que c'est compliqué, ces affaires-là. Ça rend la vie plus facile ou plus heureuse à beaucoup de niveaux, mais que ça demande beaucoup de questionnement de soi, puis il y a moins de... Tu sais, les chemins déjà tout faits, c'est pratique des fois, là.
Ouais, c'est réconfortant.
Des fois, t'en as besoin. Puis ben là, on en a moins qu'avant, puis ça se peut que ça soit insécurisant, puis ouais, insécurisant, puis ça implique de se mettre en danger, ça implique d'être souvent pas bien, alors que les autres générations auraient été sur des affaires. Ouais, moins de modèles, ça veut dire qu'on sait moins c'est supposé être quoi la réponse, faut en trouver beaucoup plus qu'avant, puis c'est beaucoup plus difficile, puis ça fait peur, puis moi, je crois beaucoup à l'idée que ça va bien aller. Ma blonde dit que je fais de la pensée magique, puis c'est à quoi je réponds toujours. Moi, et puis ça m'a amené jusqu'à où est-ce que je suis. C'est quoi le problème avec le fait que je fais de la pensée magique? À cette heure, j'ai une job que j'aime, j'ai un enfant qui va bien, puis j'ai une blonde que j'aime. C'est quoi le problème avec la pensée magique? Mais ouais, j'ai toujours tendance à penser que ça va bien aller. Comme en général, là, genre, comme ça veut pas dire botch tout puis occupe-toi de rien, mais comme inquiète-toi pas trop de ce qu'il y a en avant. Place tes affaires comme il faut, fais des affaires comme il faut. Puis ça va bien aller. Ou ça ira pas bien, puis ben, tu changeras de plan, tu feras autre chose, puis ultimement, ça va bien aller. Mais ça va bien aller à un moment donné.
Ah, puis, j'aime ça.
Ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche. Je suis peut-être juste super... Je pense aussi que je suis super chanceux. Fait que je suis pas un bon modèle à dire. Mais...
Allez-y, là. Oh non!
Tu sais, mais ouais, ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est mon message. Ça va bien aller.
OK, ça va bien aller. Un autre T-shirt. Ça va bien aller. Mathieu, Hey, Mathieu, c'était le fun. Je pensais pas avoir autant d'émotions. Je ne pensais pas te voir pleurer à l'émission aujourd'hui.
J'écris des blagues. Hein. C'est vrai que mon métier, c'est d'écrire des blagues.
Ça ne paraît pas.
Très, très drôle sur Twitter, ça me dit.
Mais merci d'avoir été avec
nous. Ça fait super plaisir.
Merci encore pour la musique de Cœur et Croupe.
Ça aussi, ça fait plaisir.
Je l'adore. Quand je l'ai fait entendre à Ben, il a capoté aussi. J'espère que j'avais donné des directives claires. Je voulais du ukulélé. C'est ça. Parce qu'une fois, je me suis acheté un ukulélé, puis Mathieu a essayé de me montrer à distance en jouer. Je connais une toune, je pense, qu'il y a deux notes. Fait qu'on va laisser les professionnels... Oui, c'est les professionnels faire. Je remercie les gens qui m'ont envoyé des questions. J'en ai eu une pluie cette semaine. Je vous remercie. Il faut continuer à m'en envoyer pour qu'on puisse nourrir l'émission. Et j'ai eu d'excellentes questions. J'en ai une coupe encore en banque. Alors, si vous voulez m'envoyer des questions, vous pouvez le faire de façon anonyme. J'ai un ask.fm/écroupe. Sur Facebook, il y a toutes les informations, toutes les coordonnées. Donc, le Facebook Cœur et Croupe au singulier, l'adresse cœur-et-croupe-au-singulier@gmail.com, le Twitter aussi. Et je vous rappelle que Cœur et Croupe est produit par le podcast Les Mystérieux Étonnants, donc qui nous accueille dans leur studio. Et merci beaucoup à Ben, merci aux consoles.
C'est un beau studio.
Merci.
Alors Mathieu, merci.
Fait plaisir. Fun.
J'étais encore plein d'émotions. Bon, au prochain épisode.
On s'en va pleurer.
Oh, oui.